France Inter.
Vous écoutez France Inter, il est 19h. Les informations, Éric Delvaux, bonsoir.
Bonsoir Manu Payet, à la semaine prochaine et bienvenue à tous au sommaire ce soir. Sébastien Lecornu en passe d'annoncer la composition de son gouvernement. Une première salve de ministres sera connue ce soir. Après avoir reçu cet après-midi le feu vert des Républicains, les LR participeront donc à ce gouvernement. La question a divisé les deux têtes du parti. Laurent Wauquiez opposé, mais c'est finalement l'option de Bruno Retailleau qui l'a emporté. Pas sûr que ce gouvernement puisse s'installer dans la durée. Les Insoumis annoncent une motion de censure dès mardi. Nous demanderons à Manuel Ruffez, service politique de France Inter, où en sont les dernières tractations. Et avec notre invité, le politologue Benjamin Morel, nous verrons ce que chaque parti a à gagner ou à perdre des prochaines motions de censure brandies par la gauche et le RN. À la une ce soir également, les discussions en Égypte. Elles ne débuteront que demain pour finaliser la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Et puis en France, nous verrons pourquoi les journalistes du Parisien aujourd'hui en France ne signeront plus leurs papiers chaque lundi à partir de demain. Le temps de demain, lundi donc, Céline Dacosta, avec l'arrivée d'un anticyclone.
Oui, comprenez par là qu'on aura un ciel plus calme, mais pas encore forcément beaucoup de soleil, en tout cas sur la moitié nord.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. France Inter. Voilà 24 jours que Sébastien Lecornu a été nommé à Matignon. Il devrait enfin annoncer ce soir une première salve de ministres, peut-être dans les toutes prochaines minutes. Les LR feront donc partie de ce gouvernement. Après avoir hésité toute la journée, le sujet a divisé les deux têtes du parti. Le président Retailleau, favorable à l'entrée des LR, alors que le patron du groupe, Laurent Wauquiez, estime au contraire que les conditions ne sont pas réunies. Au final, Laurent Wauquiez dit respecter la décision générale. Les LR feront donc partie de ce futur gouvernement en toute responsabilité, dit les LR, mais sans exaltation particulière, commente le député LR Philippe Gosselin.
C'est pas un oui massif, mais écoutez, nous sommes très majoritairement exprimés en faveur de cette participation au gouvernement, parce qu'on doit être un parti responsable. Après, on ne doit pas non plus perdre notre identité, on ne doit pas perdre ce qui fait aussi notre singularité et l'intérêt, la droite parlementaire et la droite populaire républicaine autour de Bruno Retailleau a des choses à dire sur l'immigration, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur le quotidien de nos concitoyens, et tout ça n'est pas nécessairement fongible dans ce que va être le gouvernement, mais ça c'est pas le plus grave. Aujourd'hui, à court terme, on a besoin de visibilité, de sécurité, d'un budget, donc on prend nos responsabilités et on ne confond pas participer au gouvernement aujourd'hui avec ce qui sera les enjeux de la campagne présidentielle de 2027.
Le député LR, les Républicains, Philippe Gosselin. Quelle durée de vie aura donc ce gouvernement Lecornu, dont on attend, je vous le précise, l'annonce dans un instant de la composition. La question n'est même plus de savoir s'il y aura des motions de censure, mais quand elles seront déposées dès mardi, affirment les Insoumis. On va en parler dans un instant avec notre invité, le politologue Benjamin Morel. Un mot d'abord sur les derniers bruissements autour de la future équipe gouvernementale. Bonsoir Manuel Ruffez.
Bonsoir.
Service politique de France Inter, avec donc cette première salve de ministres qui sera connue dès ce soir.
Eh bien voilà, c'est une première particularité. On s'achemine vraisemblablement vers une annonce en deux temps. C'est ce que nous a annoncé dans l'après-midi le dirigeant d'un des partis politiques de la coalition gouvernementale. Une première partie dès ce soir d'une dizaine ou d'une quinzaine de ministres, puis le reste de ce gouvernement, peut-être demain, mais peut-être aussi dans les jours qui viennent. Il y a aussi cette volonté d'un gouvernement resserré, c'est-à-dire pas plus de 25 ministres maximum, mais c'est une promesse souvent entendue, rarement tenue. Et enfin, eh bien, il ne devrait pas y avoir de surprise majeure. Les Républicains ont donné leur feu vert à une participation à ce gouvernement. Leur patron, Bruno Retailleau, devrait conserver son poste de ministre de l'Intérieur. Les LR ont réclamé un tiers des postes ministériels. On verra si leur coup de pression a porté ses fruits. On devrait retrouver Gérald Darmanin à la justice, Elisabeth Borne à l'éducation, Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères. En fait, les principales nouveautés sont attendues à Bercy, pour remplacer le ministre démissionnaire de l'économie Éric Lombard. Le nom de Roland Lescure, député Renaissance et ancien ministre de l'Industrie, circule beaucoup. Et puis au ministère des Armées, Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, va bien être obligé de se nommer un successeur.
Manuel Ruffez, service politique de France Inter. Et bonsoir Benjamin Morel.
Bonsoir.
Vous êtes constitutionnaliste et maître de conférence à l'Université Paris-Panthéon Assas. Un mot d'abord des Républicains qui se déchirent donc sur la participation au sein du gouvernement. Comment ne pas y voir surtout une querelle, voire une ambition individuelle qui déchire les Républicains ?
Oui, c'est totalement ça. Et si vous regardez un petit peu qui a voté contre cette participation, c'est essentiellement Laurent Wauquiez et ses proches. En effet, il s'agit pour eux à la fois de fragiliser un Bruno Retailleau qui a trouvé sa force dans son appartenance au gouvernement et qui plus est de jouer pour évidemment le coup d'après. Là où c'est embêtant pour Sébastien Lecornu, c'est que certes, Bruno Retailleau tient bien son parti, mais celui qui tient pour l'instant le groupe à l'Assemblée nationale, il s'appelle Laurent Wauquiez. Or, ce dont Sébastien Lecornu a le plus besoin, c'est de ce groupe à l'Assemblée. Il a besoin que ce groupe ne vienne pas jouer les éléments perturbateurs lors du budget. Comme on le voit aujourd'hui, c'est pas gagné.
Et est-ce que Bruno Retailleau a forcément besoin toujours de ce ministère de l'Intérieur pour exister sur la route qui mène à l'Élysée ? Pour l'instant, ça lui a plutôt réussi, hein.
Pour l'instant, ça lui a plutôt réussi. Et quand on regarde les enquêtes, l'électorat LR étant plutôt en demande à ce qu'aujourd'hui les LR restent dans le socle commun. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui vous donne de la visibilité, qui vous donne une forme de crédibilité présidentielle. C'est pas un hasard si beaucoup d'anciens ministres de l'Intérieur ont tenté et pour certains réussi la marche vers l'Élysée. Après, pour Bruno Retailleau, il s'agira un jour de partir, de rompre avec le socle commun pour lancer son aventure présidentielle s'il le veut. Mais l'idée, c'est pour lui que ça n'arrive pas tout à fait tout de suite et que ça arrive plutôt après les municipales.
Alors, ce gouvernement n'est pas encore annoncé, pas encore constitué, qu'il est déjà menacé de censure. LFI en déposera une mardi, dès la fin de déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. Hormis les Insoumis, qui pourrait la voter, cette motion, mardi ?
La motion, si elle est déposée mardi, risque de ne pas être la seule motion sur la table, étant donné que les socialistes pourraient bien en déposer une.
Et les écolos aussi.
Et les écologistes. Alors la question, c'est ensuite, est-ce qu'il y aura une seule motion de gauche ? Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs ? Il faut bien comprendre que chaque député peut signer trois motions de censure sur une session parlementaire. Donc à partir de là, en déposer trop peut être coûteux, en fait, pour la gauche. Donc il peut y avoir une forme de synergie. Le RN en déposera peut-être une. Si le RN en dépose une, ça veut sans doute dire que le gouvernement est condamné à brève échéance. Mais il est certain que l'une de ces motions de censure sera discutée dans les prochains jours. Et là, la question est-ce que le RN et le PS sont susceptibles de la voter
ensemble ?
Si la réponse est oui, à ce moment-là, il n'y a plus de gouvernement.
En cas de nouvelles élections législatives, c'est le centre qui a le plus à perdre ?
Alors oui, clairement. Alors après, il faut toujours faire attention aux enquêtes d'opinion hors période de campagne.
Parce que le PS montrait, il a tout intérêt à attendre de nouvelles élections, les socialistes.
Alors, il y a un mois, je vous aurais dit qu'en cas de dissolution, le groupe qui avait le plus à perdre, c'était le groupe socialiste et peut-être le groupe écologiste, parce qu'en cas de division de la gauche, ces deux groupes étaient les plus fragiles. Depuis quelques semaines, on a des enquêtes qui sont un peu différentes, qui montrent surtout un effondrement du centre. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart des seconds tours, à enquête électorale constante encore une fois, opposeraient la gauche au RN. Et ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir plus de députés socialistes à l'Assemblée, les insoumis sont dans une situation relativement difficile. En cas de division de la gauche, ils ne seraient pas balayés, mais ils perdraient des députés. Mais les grands perdants seraient les macronistes. Les grands gagnants, en revanche, ne seraient pas vraiment les socialistes, ce serait surtout le Rassemblement National qui pourrait viser une majorité relative, voire même, potentiellement, c'est pas impossible, une majorité absolue.
Une dernière question dans cette séquence politique. Quelle est la stratégie réelle du RN qui répète chaque jour son slogan, la rupture ou la censure ?
Alors le RN apparaît aujourd'hui et de manière très claire dans une stratégie de pousser à la dissolution, pour les raisons qu'on a données, c'est-à-dire qu'ils jugent qu'ils y ont intérêt d'un point de vue stratégique et qui plus est, il y a une stratégie judiciaire de Marine Le Pen qui pourrait gagner à une dissolution en tentant de placer une QPC dans le cadre d'une élection législative anticipée. Néanmoins, il ne faut pas apparaître comme rompant avec la stratégie de notabilisation pour le RN.
Merci.
C'est pour ça que s'il y a une motion de censure votée par le RN, ça peut être dans les prochaines semaines. semaine, mais peut-être pas tout de suite.
Eh bien, merci de cet éclairage, Benjamin Morel, donc politologue constitutionnaliste et dans l'attente donc de l'annonce d'une première salve de ministres dans les toutes prochaines minutes, en tout cas ce soir.
France Inter, Éric Delvaux.
Finalement, les négociations pour libérer les derniers otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens ne commenceront que demain en Égypte, Sharm el-Sheikh. Négociations indirectes entre le Hamas et les Israéliens sous la pression des Américains. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir à tous.
De Jérusalem. Donc les contours de ces discussions se mettent en place.
L'essentiel de la délégation israélienne arrivera ce soir en Égypte. À sa tête, l'éminence grise de Netanyahou pour les affaires internationales. Il s'appelle Rondermer. Il ne devrait cependant pas participer aux premières discussions. Cette délégation rejoindra les représentants du Hamas et notamment son négociateur en chef, Khalil Alaya. Personne ne se croisera ou ne se parlera directement, car les médiateurs mèneront les négociations avec cependant cette fois un engagement inédit des Américains et ce casting XXL, deux proches de Donald Trump, son ami Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner. L'enjeu est simple, s'accorder d'abord sur les conditions d'un cesser le feu pour ensuite rendre possible dans les 72 heures un échange d'otages et de prisonniers. Les modalités sont évidemment plus compliquées à définir avec cette question. Quelles garanties vont devoir apporter les Israéliens pour convaincre le Hamas de libérer les 48 derniers otages dont une vingtaine présumés vivants qui constituent aujourd'hui son dernier levier dans ces négociations.
Thibault Lefèvre en ligne de Jérusalem et ce soir le chef d'état-major de l'armée israélienne annonce qu'en cas d'échec des négociations les combats reprendront aussitôt à Gaza. Cela fera deux ans dans deux jours, deux ans après la journée sanglante du 7 octobre qui a changé la face du Proche-Orient, peut-être la face du monde aussi. Eh bien, à Paris aujourd'hui, l'association Tous 7 octobre organisait aujourd'hui une marche pour faire revenir les 48 otages ou leurs dépouilles encore retenues par le Hamas. Bonsoir Mathieu Bounour.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette marche à Paris parmi les manifestants qui reprennent donc espoir de voir revenir les otages.
La main de Ruth est serrée autour de son téléphone à la moindre vibration. Elle jette un coup d'œil dans l'espoir d'avoir une bonne nouvelle. Son neveu est détenu depuis bientôt deux ans.
Que quelqu'un appelle pour dire ça y est, c'est bon, ça va se faire quoi. On ne dort pas la nuit, on est dans une montagne russe, ça monte, ça descend, on a des espoirs, ça capote.
Cet accord proposé par Donald Trump, pour elle, c'est peut-être enfin la solution. Cette franco-israélienne place beaucoup d'espoir dans les négociations qui doivent commencer demain.
On ose sourire un peu, bien que c'est très modeste. Hein. On a toujours peur, on a eu plusieurs espoirs et ça n'a toujours pas allé plus loin. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres acteurs. Peut-être le Hamas va vraiment honorer ses engagements.
Voir toute cette angoisse, c'est insupportable pour Muriel, qui a toute sa famille en Israël.
Ça fait deux ans que tous les jours, je pense aux otages. Parce que moi, je suis maman, j'ai des enfants, et je me dis si ça avait été les miens qu'on a kidnappés. C'est insupportable. Je ne sais même pas comment les familles d'otages arrivent à supporter cette torture.
Venir ici, c'est sa manière d'essayer de faire parler de la condition de ses otages. Chaque jour qui passe, elle espère voir enfin un cessez-le-feu.
Aussi bien d'un côté que de l'autre, c'est pas non plus une vie pour les gens qui vivent dans la bande de Gaza. Il y a beaucoup de Palestiniens, de Gazaouis, qui sont contre le Hamas. Donc c'est ça, il faut que ça s'arrête pour les deux côtés.
Et elle appelle à une paix durable des deux côtés pour mettre fin au combat et aux morts.
Mathieu Bounour, cet après-midi dans les rues de la capitale pour cette marche organisée par l'association Tous 7 octobre. Deux jours après la mort du photojournaliste Anthony Lalican, tué en Ukraine dans une attaque de drone, le parquet antiterroriste français annonce ce soir l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre. À Perpignan, quatre adultes, cinq enfants et deux pompiers ont été blessés dans un important incendie au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation du centre-ville. Et huit ont été transportés à l'hôpital. Deux incendies sont en cours. En Haute-Corse, attisés par les vents, ces incendies ont déjà détruit près de 200 hectares de maquis à Saint-Florent et également à Oletta. Un automobiliste jugé pour des violences envers des policiers. Le procès s'ouvrira demain à Paris. L'affaire a commencé par un refus d'obtempérer dans les rues de la capitale. C'était en juin 2022. Les policiers ont ouvert le feu. La passagère avant est morte. Le conducteur a été blessé à la poitrine. Et dans ce dossier, les policiers ont bénéficié d'un non-lieu. Et bien demain donc, à son tour, le conducteur quadragénaire sera poursuivi, notamment pour refus d'obtempérer et aussi pour des violences sur les policiers. Marion Aquilina.
En voyant les policiers, cet homme pense au whisky qu'il a bu en boîte de nuit. Il sait qu'il n'a plus son permis. Et à l'arrière de la Peugeot 207, les deux femmes n'ont pas leur ceinture de sécurité. L'avocat du conducteur, maître Raphaël Kempf, plaidera la relaxe pour les violences envers les policiers.
Nous avons des expertises qui montrent que les policiers n'étaient pas dans la trajectoire du véhicule et tout le comportement de mon client n'avait absolument pas pour but de s'en prendre aux policiers, mais uniquement de fuir.
Les forces de l'ordre tirent 9 fois. Le conducteur reçoit une balle dans la poitrine et la passagère à côté de lui, Rayana, est touchée à la tête. Elle décède le lendemain à l'hôpital. Les policiers ont expliqué qu'ils étaient en danger et la justice a finalement prononcé un non-lieu. Mais on est face à un phénomène d'impunité policière, selon l'avocat du conducteur. Maître Kempf.
C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation d'inversion de qui est victime et qui est coupable. Ce dossier est absolument symptomatique du traitement des violences et des meurtres commis par les policiers dans notre pays.
Plusieurs parties civiles ont fait appel de ce non-lieu, notamment la famille de Rayana, qui juge indécent ces policiers qui se présentent comme victimes ce lundi au procès. Leur avocat, maître Laurent-Franck Liénard, n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Les journalistes du Parisien aujourd'hui en France sont inquiets pour leur avenir. Voilà pourquoi chaque lundi, à partir de demain, ils ne signeront plus leurs papiers. Une grève des signatures, donc, pour protester contre le silence de leur direction sur une éventuelle vente du journal au groupe Bolloré. Inquiétude également sur la nouvelle organisation mise en place. Olivier Corsan est élu SNJ au CSE du Parisien.
Il y a la question de savoir est-ce que oui ou non on va être revendu ici oui ou non au groupe Bolloré. Depuis le début, la rédaction s'oppose à une telle revente. Et il y a un deuxième sujet, c'est qu'on a signé un accord au printemps dernier qui prévoyait 46 départs et 17 embauches et que les 17 embauches, on ne les a pas. Et il y a beaucoup de services où il y a des gens qui sont partis, qui sont remplacés ou pas, par des CDD ou pas. Et alors bien sûr, il y a la précarité des CDD qui est inquiétante, mais quand la moitié des services est en CDD, ça a très compliqué de travailler dans ces conditions-là, de ne pas avoir de visibilité, de savoir si à la fin du mois, comment on va fonctionner pour les plannings. Et ce que les gens demandent, c'est d'avoir une visibilité, au moins à moyen terme, pour pouvoir un peu se poser, se concentrer sur leur travail. Et ça, ils ne l'ont pas.
Olivier Corsan, élu SNJ au Parisien aujourd'hui en France, il répondait à Alexandra Akoun. En cyclisme, sans surprise, Tadej Pogacar a remporté le championnat d'Europe cet après-midi en Ardèche. C'est d'ailleurs son premier titre de champion d'Europe. Le Français Paul Sexas a décroché la médaille de bronze. En Australie, voilà peut-être la solution pour éviter aux surfeurs les morsures de requins. Des combinaisons doublées de Kevlar et autres matériaux très résistants. Elles ont été mises au point par des sociétés australiennes. Ces combinaisons permettent de réduire grandement les risques. À Sydney, le reportage de Grégory Pless.
Les vagues sont en rendez-vous aujourd'hui sur la plage de Bondi et donc les surfeurs aussi. Et la plupart, à l'image d'Erol, qui surfent quasiment tous les jours, ont déjà vu passer des requins à côté de leur planche.
Et vous avez déjà croisé un requin ?
Oui, je dirais plus de 30. Mais des requins qui m'ont fait vraiment peur, j'ai dû seulement en voir un ou deux.
Des attaques de requins, on en recense une 30 par an en Australie. C'est justement ce qui a poussé Hayden Butford à inventer Sharkstop, une combinaison résistante aux morsures. Elle a récemment été testée par des scientifiques qui l'ont soumise aux morsures de grands requins blancs. Et Hayden Butford se félicite des résultats.
Si vous portez cette combinaison et que vous êtes attaqué, je ne peux pas garantir qu'un requin ne vous brisera pas les os. En revanche, il ne pourra probablement pas planter ses dents et vous arracher les muscles, les veines ou les artères.
De fait, l'étude conclut que ce type de combinaison permet de réduire grandement les risques de perte de sang et donc aussi les décès. Mais elle reste pour l'instant bien plus chère que des combinaisons traditionnelles et les ventes restent encore limitées, même si quelques-unes ont trouvé preneur jusqu'à l'île de la Réunion. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
On va refermer ce journal avec un jeu vidéo, un jeu dont les images sublimes laissent parfois les joueurs sans voix. Ghost of Yotai vient de sortir sur PS5. C'est donc une exclusivité de la console Sony. Les aventures d'une redoutable samouraï dans le Japon du XVIIe siècle. Et la suite, c'est aussi la suite d'un succès de la console précédente, PlayStation 4, Olivier Bénis.
Juillet 2020, la PS4 est en bout de course, prête à céder sa place à sa successeur, la PS5, 4 mois plus tard. Et le studio Sucker Punch, filiale de Sony, lui offre un superbe chant du cygne avec Ghost of Tsushima, l'histoire d'un samouraï face à la tentative d'invasion du Japon par les Mongols au XIIIe siècle.
Nous sommes 80 samouraïs contre toute une armée. Aujourd'hui, je meurs pour mon peuple.
Bingo, le jeu se vend à plus de 13 millions d'exemplaires, de quoi motiver une suite, Ghost of Yotei, qui sort dans un contexte plus difficile, car il provoque cette fois en duel le mastodonte Assassin's Creed Shadows d'Ubisoft, sorti il y a à peine 6 mois. Ghost of Yotei est certes moins homérique, mais il a de quoi ravir les fans de Kurosawa avec son expérience très cinématographique.
Ma mère m'avait raconté des histoires au sujet de l'Onryu. Un esprit impitoyable parcourant le monde, assoiffé de vengeance. La nuit où ma famille a été massacrée, instinctivement, j'en suis devenu un.
Plus inattendu, le jeu a aussi été attaqué par les soutiens de Charlie Kirk après une blague d'une salariée du studio sur la mort de l'influenceur d'extrême droite. Elle a immédiatement été licenciée, ses employeurs estimant, je cite, que minimiser le meurtre d'une personne est inacceptable. Rappelons que dans Ghost of Yotei, l'objectif est de traquer et de tuer les responsables de la mort de votre famille.
Ghost of Yotei, donc, qui vient de sortir sur PS5. Avant de terminer ce journal, je vous rappelle Sébastien Lecornu qui est en passe d'annoncer la composition de son gouvernement. Une première salve de ministres sera connue ce soir après avoir reçu cet après-midi le feu vert des Républicains. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Demain matin, la France va être partagée en deux.
Oui, on aura globalement un ciel beaucoup plus calme et ça va perdurer d'ailleurs tout au long de la semaine. Mais c'est vrai que demain matin, on aura du soleil sur une large partie sud du pays. Mais encore beaucoup de nuages sur la moitié nord avec des brouillards parfois épais et présents localement en matinée en plaine, particulièrement de la Bourgogne vers le Massif central. On pourrait même avoir encore quelques gouttes sur le nord-est.
Et un peu plus de lumière l'après-midi.
Oui, les éclaircies devraient réussir à se faire une place au milieu de nombreux passages nuageux sur la moitié nord. Plus au sud, ce sera encore du soleil avec du vent toujours près de la Méditerranée. Quant aux températures, elles seront encore un petit peu fraîches le matin de l'est au sud-ouest, 4 à 9 degrés. Un petit peu plus sur le nord-ouest et près de la Méditerranée avec 8 à 13 degrés. Quant au maximal, elles iront de 14 à 20 degrés sur une grande moitié nord du pays, 20 à 25 sous soleil plus au sud.
Les prévisions de Céline Dacosta.